Vous voulez préparer un 10 km, un semi-marathon, un marathon, un trail, juste rester en bonne santé, mais déjà partir de l'effort qu'on va faire, c'est la première chose. Est-ce que vous voulez le courir le plus vite possible ou juste le finir? Tu vois, déjà rien que ça va dire tes outils, est-ce que tu as besoin de faire de la haute intensité ou pas? Pas forcément, ou alors beaucoup, tu vois, selon ce qu'on veut faire.
Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nico, bienvenue à nouveau sur le podcast. Comment tu vas?
Bah écoute, ça va bien. Malgré la pluie dans le Jura, là, il tombe des seaux là, depuis 2 jours, mais à part ça, tout va bien. Faut
Ouais,
juste mettre des beaux.
c'est pas aussi joli qu'il y a une semaine quand il neigeait.
Non, non, bah, faut juste mettre des bons habits pour aller s'entraîner. Je dis souvent, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits.
C'est une bonne manière de voir les choses. Nico, je voulais te réinviter sur le podcast pour parler d'un événement important, la sortie de ton livre, La prépa physique de l'endurance. Pour ceux qui regardent le podcast, vous le voyez ici à l'écran. Donc, nouveau bouquin et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui avec toi. Alors, pourquoi tu as écrit un bouquin? On va commencer par le début.
C'est une longue histoire, c'est-à-dire que quand je bossais à la fédé de ski, j'avais notamment un jeune Gaël qui me disait toujours en me chambrant, ah ben quand tu écriras ton bouquin, quand tu écriras dans ton bouquin, donc c'était il y a 4-5 ans en arrière déjà, et puis au début je n'avais pas forcément le projet, hein, je ne vais pas parler de ça, et puis c'est allé dans un coin de ma tête, et puis après petit à petit, j'ai commencé il y a une grosse année en arrière, je me dis, bah ouais, c'est vrai que. Tout ce que je fais depuis une dizaine d'années, j'ai des fichiers Excel, j'ai des notes, j'ai surtout des trucs dans ma tête, quoi. Et je me dis, bah tiens, allez, pourquoi pas? Et en toute honnêteté, moi, je suis un fervent lecteur, hein. Je lis beaucoup des bouquins d'entraînement et des bouquins pas d'entraînement d'ailleurs. Et je me suis dit, mais il n'y a personne, en toute modestie, hein, qui a fait un bouquin sur la prépa physique de l'endurance et surtout destiné. Aux sportifs amateurs de niveau débutant à avancé, je trouvais que ça existait nulle part. Et du coup, on a souvent des cas d'études repris ou des choses comme ça sur du haut niveau, mais pas forcément sur ce qui est applicable à monsieur et madame tout le monde tous les jours. Donc, du coup, j'ai essayé de faire. C'est aussi ma manière de bosser là, de réconcilier. Enfin, c'est pas séparé, mais de mixer un petit peu les deux sur ce qui peut se faire à haut niveau et ce qu'on peut en tirer pour les amateurs. Donc, j'ai essayé de faire un bouquin pratique, quoi.
Je pense que c'est super intéressant. Il est très joli, il est très bien illustré. Il y a des graphiques, il y a des photos, il y a des exemples de séances et d'entraînements à plus savoir qu'en faire. C'est extrêmement complet. Comme je te l'ai dit juste avant, hein, je n'ai pas encore eu le temps de le lire depuis que tu me l'as envoyé. C'est un bouquin qui fait près de 500 pages, hein, qui fait plus de 500 pages.
Plus de 500, ouais.
Donc il y a largement de quoi faire. Ce que je voulais faire ici, c'est parcourir les différents chapitres. Tu as 7 chapitres que tu as utilisés pour organiser le livre. Je voulais passer par chacun des chapitres et que tu nous dises un petit peu, alors sans pouvoir regarder dans ton propre bouquin, juste nous parler un petit peu comme ça des différents sujets que tu as abordés, pourquoi tu les as séquencés et organisés de la manière dont tu l'as fait. Mais avant ça, je suis curieux de te demander, et ça c'est une petite curiosité personnelle, combien d'heures tu as pris pour écrire le livre?
Bah, j'ai pris, je ne peux pas te dire, si je suis vraiment honnête, j'ai attaqué l'écriture à l'automne, enfin vraiment l'écriture à l'automne 2022, donc il y a déjà un moment. Après l'hiver avec la fédé de ski, je n'ai pas pu avancer dessus, donc du coup, c'était mis un peu en stand-by. Donc on va dire ça m'a pris une année et en termes d'heures. Je dirais que c'est deux, je sais pas, c'est 200, 300 heures. Franchement, je peux pas le dire. Et à la fin, ma copine à côté, elle va rigoler quand je dis ça, mais je voulais le sortir pour que les gens aient à Noël. Et je faisais. Alors, ouais, j'ai pas respecté les bases du sommeil, hein, mais je finissais d'écrire à 3 heures du mat. Je me relevais à 8 heures, je rattaquais. Donc, le bouclage a été un peu pressant, etc. Ce qui fait qu'il reste une petite coquille. Mais vu que je viens de le réimprimer, parce que j'en avais plus, j'en ai déjà corrigé une partie. Mais c'est dur à dire. En termes d'heures, ouais, 2 ans, 300, je peux pas le dire. Après, c'est surtout, comme je te disais, il y a plein de trucs. J'avais déjà des prises de notes, des séances, des choses comme ça que j'ai remis au propre. Donc, mais l'écriture en elle-même, je pense quoi, il y en a eu pour un petit moment. Surtout que j'ai fait la conception moi, le graphisme moi et tout. Donc, c'était long.
Dans quelle mesure ton processus d'écriture a évolué et changé au cours de cette dernière année avec la production de ton livre?
Ben, de toute façon, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire, forcément, vu que j'étais débutant dans l'écriture de livres. Donc, au début, il y a des sujets que j'étais allé vraiment loin dedans. Puis après, je me suis dit, Déjà, un, est-ce que l'info elle est intéressante? Oui, non, pour la plupart des gens. Est-ce que le livre, je peux retrouver qu'un pavé de 1000 pages qui est indigeste, c'était pas non plus le but. Donc, ça a évolué dans le sens où j'ai fait un truc, je sais pas s'il fallait le faire comme ça, mais j'ai rien écrit dans l'ordre. C'est-à-dire, j'ai pas fait le chapitre 1, puis le chapitre 2, puis le chapitre 3. C'était selon un peu mon inspiration du moment. Et puis, le plus facile, franchement, c'était tous les protocoles, parce que les protocoles, c'était de la mise en page, mais c'est tous des trucs que moi j'avais fait, que j'avais proposé aux gens que je coach, etc. Donc ça, c'était long, mais c'était intellectuellement, c'était assez facile parce que la réflexion, elle s'était faite avant. La partie sur la prog, c'était cool. Sur la mobilité, je me suis remis à jour parce que le process d'écriture, je sais pas s'il a évolué, mais ma manière, en fait, je vais aller me ressourcer sur certains trucs pour vérifier que je disais pas de conneries. A priori, pas trop quand même de base, mais il y a toujours, j'ai réappris des trucs en écrivant ou j'ai reformuler des choses, donc ça c'était super intéressant. Et après, voilà, ça a évolué dans le sens où c'est plutôt moi qui ai évolué aussi sur certains points. Et le process d'écriture, il est tellement. J'ai essayé de faire un truc carré, mais c'est tellement brouillon ce que j'ai fait dans l'organisation où j'étais désorganisé au possible pour le faire, pour créer en tout cas, que je n'ai pas de réponse précise à t'apporter. Mais voilà, j'ai essayé de. J'avais ma trame depuis le début hein, de ce que je voulais mettre, mais j'ai rien écrit dans l'ordre, tu vois.
Et au final, comment ça s'est passé quand il était temps d'éditer, d'enlever, de raccommoder, de mettre bout à bout? Comment s'est passé cette phase-là?
S'il voit la vidéo, je flippais un peu parce que toi, tu fais le truc. En plus, j'ai vraiment fait l'idéal, ce que j'aurais pu faire, mais j'en ai beaucoup qui le voulaient pour offrir à Noël. Et puis, je l'ai écrit pour les gens aussi. J'aurais dû l'imprimer en version papier, faire un exemplaire test, le relire et tout. Et là, je l'ai relu sur ordi, je l'ai fait relire à des gens que je coach. J'ai Chloé, je lui fais une petite dédicace. Quand elle avait 4 heures de home trainer, elle me relisait chapitre par chapitre. Enfin, tu vois, ça s'est fait vraiment. Un peu dans la précipitation, mais de manière réfléchie, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, je me suis dit, j'essaie de faire la forme qui est la meilleure possible, mais c'est le fond qui m'intéresse, et je pense, et j'étais convaincu que le fond était là, donc voilà.
Qu'est-ce que tu préfères de ce livre que tu as créé? C'est encore tout frais, c'est encore tout jeune, mais pour toi, qu'est-ce qui ressort comme aspect positif? Ça peut être du livre en lui-même, ça peut être de la phase d'écriture, la dernière année que tu as pris pour le créer.
Ben en fait, ce qui ressort, il y a plein de choses, mais le truc pour moi qui ressort le plus, c'est quand j'ai des gens que je ne connais pas qui me font des retours, ça c'est cool, mais encore plus que ça, c'est quand j'ai des gens que je ne connais pas qui m'identifient sur les réseaux qui sont en train de faire les séances. Et ça, je me dis, ok, moi je voulais un truc pratique que les gens aient pu s'appliquer tout de suite. Ben c'est vraiment ce qui me ressort le plus et qui me fait le plus plaisir par rapport à ça. Après, j'ai eu des retours. Dans le sens, bah ouais, c'est la partie de vulgarisation que j'ai des gens qui m'ont dit, j'ai jamais vu un truc aussi bien vulgarisé. Je te dis pas que tout le monde le pense et que c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Et ça dépend du profil de chacun, de l'historique de chacun. En fait, c'est que tous les gens qui l'ont acheté, ce que j'ai envie, c'est qu'ils en tirent quelque chose après derrière. Mais le vrai truc, c'est que les gens, ils appliquent sur le terrain. Et c'est ce qui me fait le plus plaisir, quoi.
Qu'est-ce qui t'a aidé à organiser les différents chapitres? Je vais vite les relire dans l'ordre, juste pour que je les aie en tête et pour que ceux qui n'ont pas encore ton livre puissent aussi le savoir. Chapitre 1, le corps à l'effort. Chapitre 2, organiser l'entraînement. Chapitre 3, la haute intensité. Chapitre 4, protocole de renfort. Chapitre 5, exercice de renforcement. Chapitre 6, les blessures. Et chapitre 7, la mobilité. Qu'est-ce qui t'a encouragé ou comment ça se fait que tu l'as organisé de cette manière-là?
Bah, c'est le chemin de construction normal quand moi je fais une prog. Hein. C'est-à-dire que déjà comprendre ce qu'on fait. Donc le corps à l'effort, j'ai vraiment fait les basiques et ce qui me paraissait essentiel pour le public du livre. Tu vois, il y a certains trucs, je ne vais pas aller dedans beaucoup dans le détail. Certains, je les ai pas abordés. On peut en rigoler, hein, mais VO2 max, j'en parle quasiment pas. Parce que pour moi, c'est pas. C'est pour moi, c'est ma perception. Ce n'est pas fondamental. Il y a d'autres trucs qui le sont. Et après, derrière, c'est déjà comprendre. Deuxième chose, c'est déjà faire un plan de bataille. Tu vois, je commence toujours, tout le monde devrait commencer une prog avec un plan de bataille. Donc, organiser l'entraînement, comment je peux l'organiser, si j'ai tant de créneaux par semaine, les bases de l'entraînement, ça bougera jamais, en fait, quelle que soit la discipline, quels que soient les progrès de la science. Les principes séculaires, c'est toujours les mêmes. Donc, c'est un rappel vraiment de ça et d'expliquer comment moi je bossais. Ce n'est pas la seule manière de bosser, ce n'est pas la meilleure, mais moi, j'ai écrit le bouquin en disant. Voilà comment moi je m'y prends avec les sportifs amateurs, comment je me suis pris avec les sportifs pros, et on va après derrière. Et après, seulement qu'il y a derrière, Ben, en fait, les outils, les séances d'intensité et les séances de renforcement musculaire notamment, c'est des outils en fait. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre en fait. Ça dépend vraiment qu'est-ce que les gens ont mis en place comme stratégie, ce qu'ils veulent faire, ils se lient dans ce sens. Après, ben, forcément, les exercices, il faut illustrer qu'est-ce qu'il faut faire pendant les protocoles de renforcement. Prévention des blessures, alors elle peut aller en troisième, hein, juste après l'organisation de l'entraînement. Pourquoi je l'ai fait dans cet ordre-là? Parce que je trouve que sur la prévention des blessures, on a aussi beaucoup une approche où on fait peur aux gens, tu vois, en disant vous allez vous faire mal si vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Et en fait, moi, l'idée, c'est plutôt de se dire faites les choses correctement. Et d'ailleurs, la prévention des blessures, c'est de l'organisation de l'entraînement, hein, principalement. Et derrière, bah, voilà les petits tips un peu pour un peu moins se blesser. Donc, c'est en lien avec les autres chapitres. Et idem sur la mobilité, ou dans le sens, c'est une base santé. Donc, c'est surtout pas à négliger. Mais ça vient dans la perf, ça vient après, tu vois ce que je veux dire. Et après, j'ai aussi demandé, j'ai fait intervenir pas mal de coachs de terrain dans plein de disciplines différentes. Ça va de Cindy, qui était danseuse à l'Opéra Royal à Londres, à Vincent Vitos, qui coachait l'équipe de France de biathlon, Thomas Laure Blanchet, Guillaume Millet. Enfin, je ne peux pas tous les citer d'un coup, mais j'ai voulu en fait amener des gens. Alors, quand ils disent que ce que j'ai dit est juste, enfin, j'exagère, ça me va. Mais aussi une autre vision en disant, voilà, mais toi, il y en a, on n'a pas exactement la même vision, donc eux, ils apportent la leur, parce que je trouve que c'est ce qui doit être ouais, enrichissant sur tout ça. Ouais, j'ai un champion olympique de judo, j'ai tout le monde, et je me suis toujours construit en tant que coach en échangeant avec des gens avec qui je n'étais pas forcément d'accord ou qui faisaient différemment. Et surtout, j'échange finalement très peu avec des gens issus du domaine de l'endurance. Non pas que je sache tout, hein, loin de là, mais. Je trouve que les bases, ça reste toujours les mêmes. Et sûrement, c'est pareil en muscu ou dans d'autres sports, mais j'ai envie d'avoir des gens qui sont dans un autre sport, qui ont une autre approche. Et je me suis nourri de ça et j'avais envie de le retranscrire dans le livre aussi. Parce que le schéma de pensée, c'est pas tout à fait le même parce que ce n'est pas les mêmes finalités. Et je trouve qu'on progresse vraiment par rapport à ça.
Ouais, j'aime beaucoup cette initiative et je trouve que tu ressors avec quelque chose qui est très très riche parce que tu as ton modèle, ta perspective complète du début à la fin avec le livre, plus tous ces petits rajouts qui vont, comme tu l'as dit, parfois être complètement alignés avec toi, parfois être complémentaires ou voire différents. Et ça permet au lecteur de vraiment se faire une idée globale de ces différents sujets avec différentes perspectives de la part de différents professionnels. Donc ça, je pense que c'était vraiment un chouette move de ta part. Commençons avec le chapitre 1, le corps à l'effort. Si, comme ça, sans lire ton bouquin, si tu devais résumer ce chapitre, comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui débute, qui n'a pas forcément de notion de physiologie et pourquoi est-ce que tu as choisi ces différents sujets, ATP, filière énergétique, système nerveux, pour structurer ce chapitre?
Bah, pour moi, j'ai une approche qui est très énergétique de l'endurance, c'est-à-dire que tu as tes substrats, les graisses et les sucres, hein, pour faire vraiment très simple là-dedans. Et l'entraînement, si on n'est que d'un point de vue physiologique, l'enjeu pour la plupart des gens, c'est d'être économe à intensité, soit basse intensité, soit intensité assez élevée, mais pas maximale. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc, je vais vraiment aller là-dessus en disant, bah, comprendre généralement comment ça marche, comment on peut utiliser la filière glycolytique, l'oxydative, juste pour qu'ils comprennent pourquoi physiologiquement c'est intéressant de faire de la basse intensité, de la haute intensité, etc., etc. Donc vraiment comprendre ça, avec un peu forcément le système structurel, parce que on parle toujours de graisse, de sucre, etc., mais c'est bien stocké quelque part. Et c'est dans les muscles, et les muscles éthiques en tout cas, et les muscles ils servent pas que à faire ça, ils servent aussi à produire de l'énergie. Donc j'ai eu cette approche-là pour essayer d'expliquer aux gens. Et le deuxième point, et t'en parles, c'est le système nerveux. Alors c'est ma déformation du ski de fond où on a une approche, tu vois, avec le HRV, enfin la variabilité cardiaque, ça fait 15 ans qu'on est vraiment un peu là-dessus. Et je dis pas qu'il faut l'utiliser, la VFC, justement. J'explique d'ailleurs pourquoi. Soit on l'utilise à fond, soit on l'utilise pas, mais c'est un point de vue. Et par contre, l'approche nerveuse avec garder un équilibre et dans l'entraînement et surtout chez des amateurs qui ont déjà une vie pro et perso qui est prenante, pourquoi ce système d'entraînement-là prend en compte le système nerveux et pourquoi il doit être pris en compte? Tu en avais parlé l'autre fois et on en a reparlé un peu en off. On est tous pareils, hein. Il y a des moments où on s'occupe pas assez de nous. Et toi, tu disais, bah, cette année, je bossais un peu moins, je fais un peu plus de sport pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est super important. On n'arrive pas tous à le trouver. Hein. Moi, le premier, tout le monde. Et ce que je veux dire, j'utilise pas mal dans la partie prog. Bon, ça déborde, mais le système des bocaux ou le bocal, il doit jamais être plein. Si ton bocal, il est plein, au bout d'un moment, il va péter. Donc, en gros, la physio, c'est expliquer En fait, mon résumé, ma copine m'avait dit en rigolant, t'as écrit un bouquin de 500 pages pour expliquer aux gens qu'il faut s'entraîner doucement, parce que comme ça, ils pourront s'entraîner tout le temps. Mais elle rigole, elle est à côté. Mais en gros, j'explique pourquoi, au niveau de la physio et du corps à l'effort, pourquoi il faut s'entraîner doucement, principalement.
Ah, c'est intéressant, j'ai eu un échange aujourd'hui, hier, par email avec quelqu'un qui est convaincu du fait que tout ce qu'il faut pour être en bonne santé, c'est 15 minutes de renforcement par semaine à très très haute intensité à
Ouais.
l'échec et que rien d'autre, enfin, que en gros, ça sert à rien de faire du cardio plus long parce que c'est chiant et parce que les gens ne veulent pas le faire et parce que le renfo, au final, c'est pareil. Quelle serait ta perspective sur un postulat de ce genre?
Bah, cette même personne, je la connais hein, d'ailleurs, mais si tu lui dis je vais faire que de l'endurance tout le temps, il va dire tu vas pas être assez en bonne santé parce que tu fais pas de renforcement. Et en fait, si tu veux, je trouve que la zone 2, vu qu'on est chez toi, est aux activités de force ou d'explosivité, ce que le renforcement est aux activités d'endurance. C'est-à-dire que c'est un complément qui permet justement de compléter ce que la discipline n'apporte pas. Tu n'as aucune discipline qui est parfaite. Il n'y a aucune discipline qui est complète. Je te prends même l'exemple souvent du ski de fond. Ski de fond, c'est sûr, énergétiquement, c'est top. Il y a le haut du corps, le bas du corps. Mais dans l'absolu, quelqu'un ferait du ski de fond tout le temps, toute sa vie. Il a zéro impact au sol, donc finalement, au niveau osseux, il va s'affaiblir. Tous les sports, tu peux leur trouver des limites. Donc, attention, moi, l'objet du livre, il est de se dire de progresser dans un sport d'endurance en préservant sa santé. C'est-à-dire que le postulat, il est là, il n'est pas de dire il faut faire que de la basse intensité ou que de la haute intensité, enfin, surtout pas d'ailleurs, mais. Le renforcement vient en complément. Et à cette personne-là, je pourrais lui répondre la même chose. C'est-à-dire que si tu veux rentrer dans la performance, tu es obligé d'aller jouer sur des curseurs qui ne sont pas forcément toujours bons pour la santé. C'est vrai, hein, faut pas se mentir. Si c'est du sport santé, il bah, faut le prendre en disant si tu fais une fois de sport dans la santé, tu vois, c'est pareil, tu as une approche de perte de poids. Okay? Tu vas te focaliser sur une séance, combien de calories tu as brûlé. C'est un quart d'heure dans ta journée, une journée dans ta semaine. Une semaine sur les 52. Ce qui est important, c'est le cumul à la fin de la semaine, c'est de bouger régulièrement. Donc l'enjeu, basse intensité, course à pied, vélo, renforcement, charge lourde, charge moyenne, poids du corps, etc. L'enjeu, en fait, pour progresser, et quand je dis progresser, c'est large même sur la santé, c'est d'arriver à solliciter ton métabolisme le plus régulièrement possible. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, pour moi. Hein.
Ouais, je suis complètement en ligne avec toi et mon argument, c'était pourquoi choisir? Pourquoi est-ce qu'il faut être team cardio ou team renfo? Pourquoi on ne peut pas juste faire les deux? Et à mon avis, l'argument de ouais, mais les gens, ça les emmerde de faire du long et du lent, ben ça, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas recommander d'avoir un entraînement équilibré avec différentes facettes et différentes intensités.
Mais on a le droit d'avoir un avis différent. Hein. Mais
Aussi,
moi,
aussi.
toutes les personnes que je coach, là, en amateur, j'en ai à peu près 80 là, en ce moment. Sur les 80, je pense, j'en ai 78. Tu leur dis, prends ta bagnole, va dans une salle de sport. Je peux dire qu'ils vont trouver ça extrêmement chiant. Tu leur dis, va courir 2 heures, ils vont s'éclater. Donc ça dépend des gens.
Exactement, exactement. Pour l'aspect sur le corps à l'effort, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit avant, la VO2 max, ce n'est pas une mesure qui est nécessairement utile et qui est pertinente à comprendre si on veut simplement s'entraîner de manière cohérente. Quelles sont pour toi les notions, entre guillemets, théoriques qui sont les plus importantes à comprendre pour s'en sortir en prépa physique, en endurance, pour comprendre au minimum ce qu'on fait et pourquoi?
Ouais. Bah, pour moi, ça va être en lien. Après, on peut les calculer ou pas, les seuils, mais c'est cet équilibre lactique en fait à chaque fois. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que en fait, tu passes quand tu es le MLSS par exemple, en tout cas la zone de déséquilibre lactique, tu passes dans quelque chose que tu es plus capable de gérer longtemps après. J'essaie d'expliquer aux gens très simplement. Mais en fait, à chaque fois, ces deux seuils, qu'ils soient mesurés ou pas, s'ils sont mesurés, ça peut être un outil d'aide hein, qui est intéressant. Ces deux seuils, ce premier seuil où tu es vraiment à l'aise. Ce deuxième seuil où quand tu le dépasses, tu n'es plus du tout à l'aise et ce qui se passe entre les deux, à chaque fois, c'est super intéressant pour progresser et pour apprendre à se connaître en se disant, OK, là, je suis à cette allure-là, qui est maîtrisée, pas maîtrisée, hein, peu importe, c'est la masse, c'est l'allure tranquille que je peux faire longtemps, etc. Si j'accélère un petit peu, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable de le faire longtemps? Et le but, en fait, c'est d'être à l'aise dans toutes ces zones-là. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément dans la très haute intensité, ce n'est pas l'enjeu général, mais ce qui... C'est pour ça que j'ai l'approche énergétique beaucoup là-dedans. On a besoin de graisse, on a besoin de sucre. Système qui est simple à comprendre, hein, tu as oxydatif, glycolytique. L'oxydatif, Ok, c'est pas puissant, mais tu peux le faire très longtemps. Le glycolytique, ouais, tu as besoin d'énergie rapidement, tu peux y aller. Du coup, ton corps, il dit au gras, stop, restez où vous êtes, je prends du sucre parce que j'en ai besoin tout de suite. Sauf que ça dure pas longtemps. Et tu vois, cette capacité à jongler entre les deux, c'est le but du jeu de l'entraînement. Je sais pas si c'est clair hein, ce que je dis, mais
Ouais, c'est
c'est vraiment
clair.
l'approche, ouais, sur la physio en tout cas.
C'est clair, c'est clair. J'aime ta perspective là-dessus. Si on parle du chapitre 2, organiser l'entraînement, je pense que tu vas vraiment éclaircir énormément de points avec ce chapitre parce que c'est, je pense, une des questions que je reçois encore le plus, hein. Les gens, ils savent, ils connaissent les différents types de séances, ils comprennent différents formats de séances, ils en ont vu chez différentes personnes ou dans différents programmes. Mais après, la grande question, c'est toujours comment tu les combines, comment tu les mets ensemble. Donc, si tu devais nous résumer la planification de l'endurance, au plus simple, comment est-ce que tu aborderais ce sujet?
Bah, déjà, la première chose, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez préparer un 10 km, un semi-marathon, un marathon, un trail, juste rester en bonne santé, mais déjà partir de l'effort qu'on va faire, c'est la première chose. Est-ce que vous voulez le courir le plus vite possible ou juste le finir? Tu vois, déjà, rien que ça va dire tes outils, est-ce que tu as besoin de faire de la haute intensité ou pas? Pas forcément, ou alors beaucoup, tu vois, selon ce qu'on veut faire. Ça, c'est déjà prendre un petit peu, donner cette stratégie-là. Et après, derrière, le premier point, pour moi, je m'y suis attaché dans le chapitre. C'est déjà d'arriver à déterminer le nombre de séances par semaine qui sont acceptables pour être tenues toute l'année. Et ça, c'est vraiment le premier point. Tu vois, avant de dire les outils, etc. Et moi, je fais encore. Enfin, on l'a fait ensemble, parce que c'est que les gens, on fait encore l'erreur avec les gens que je coach. Quand on a 4 séances, je donne l'exemple dans le bouquin, parce que je donne aussi des exemples, on a essayé de passer à 5, ben, ça passait plus. Donc, on revient à 4. C'est déjà de trouver un petit peu ça et de commencer en me disant. Il y a peut-être quelqu'un qui est débutant, si ta question porte là, j'essaie de faire 4 fois 20 minutes dans la semaine. Ben déjà, je commence par faire 2, après 3, après 4. Ok, ça passe. Tiens, j'essaie une cinquième. Merde, ça passe pas. Ben, si la cinquième passe pas, alors c'est très, très, très cadré ce que je dis, mais c'est pour comprendre. Ben, si la cinquième passe pas, ben, tiens, je reste à 4. Par contre, au lieu de faire 4 fois 20, eh ben, je vais faire 3 fois 20, une fois 30. Ok, ça passe. Après, je vais faire 2 fois 30, 2 fois 20, ça passe. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, derrière, ok, je continue à progresser. Je n'ai pas besoin d'aller faire de l'intensité tant que je progresse au début. Ça peut aider. Par contre, après, ok, j'ai mon plateau, j'ai mes 4 séances d'1 heure dans la semaine. J'en suis arrivé à là, au bout de 4 mois, par exemple. J'ai mes 4 séances, là, je stagne. Bon, bah, ok, là, il faut que je mette de l'intensité parce que j'ai envie de me faire plaisir. Et l'intensité, c'est plaisant, on ne va pas se mentir. Hein, franchement, c'est cool hein, de s'envoyer, de courir vite. C'est cool quand on est prêt, sinon on le paye un peu derrière. Mais en gros, c'est de trouver le premier conseil pour organiser l'entraînement, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut, combien de temps on a de disponible. En fait, c'est la notion d'implémentation, c'est où, quand, comment. Ça te donne vraiment le truc, c'est un truc de psychologie de base, mais ça donne du sens à ce qu'on va faire. Et après, seulement derrière, on fait les outils. Puisque dire, il faut faire du tempo, parce que moi, ma passion, c'est le tempo. J'adore ces séances, j'adore en faire, mais il faut faire du tempo, il faut faire de la zone 2, il faut faire de la VMA, il faut travailler à VO2. Ouais, tu mets l'outil, quoi, mais ça reste qu'un outil. Tu vois, c'est vraiment de donner cette stratégie-là, et j'ai essayé d'écrire le chapitre dans ce sens-là. Tu vois, un truc tout con, hein, c'est moi j'aime bien la matrice de Eisenhower modifiée, donc je l'ai modifiée pour le bouquin, important, pas important, urgent, pas urgent. Bah là, tu dis, ok, ça c'est important, et ça doit être fait tout le temps si je veux progresser, bah, ça je vais m'en bouffer toutes les semaines. Ça, c'est important, mais je peux me permettre d'en faire qu'une fois un mois dans l'année. C'est un exemple. Ok, je vais le placer là. Ça, c'est pas important et pas urgent. Alors, parce que sinon, il y a plein d'outils. Hein. Mais c'est pas important, pas urgent, ben, je m'en occupe pas. Et ça, par contre, c'est pas important, mais il faut quand même que je le fasse régulièrement en complément. Ben, ça te fait une petite routine. Le renforcement pour le sportif d'endurance, par exemple. Le renforcement pour le sportif d'endurance, sauf si on veut optimiser. Il est en guillemets pas important pour la performance, mais il est important pour la santé. Il est important pour pouvoir s'entraîner plus dans sa discipline, par exemple.
Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. J'aime le fait que tu aies commencé avec cette idée de qu'est-ce qu'on peut maintenir sur l'année. Hein, qu'est-ce qui est durable comme approche? Parce qu'au final, comme tu l'as dit, c'est la seule chose qui a du sens. Faire 2 semaines à bloc et tous les jours pour ensuite s'écrouler et s'arrêter 2 semaines parce que tu avais un rythme qui était trop élevé. Au final, tu y perds sur la durée par rapport à avoir un rythme plus lent, mais quelque chose que tu peux maintenir dans la durée. Donc ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Il y a une partie qui s'appelle transfert, interférence et incompatibilité. Qu'est-ce que tu mettrais en lumière au travers de cette partie-là pour toi?
Bah, en fait, et là, c'est plus dans un prisme de si on veut faire une performance, sa propre performance, hein, je parle pas battre le record du monde du marathon parce qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas, sa propre performance, dans un truc, en fait, il y a le transfert, il n'est pas prouvé. En fait, dans les sports à dominante psychomotrice, la course à pied par exemple, je le dis bêtement, c'est pas prouvé. Que de faire de la musculation, c'est pas il y a des choses qui vont dans ce sens, hein. Et moi j'ai ce parti pris que ça aide, hein, bien sûr. Mais en fait, ce qui est prouvé, c'est que c'est la répétition. En fait, il faut répéter pour créer l'adaptation. On n'a pas le choix, il faut répéter, répéter. Quand par exemple, je donne souvent l'exemple, les sports à dominante sociomotrice, les sports co par exemple, tu peux progresser au foot en allant faire de temps en temps des séquences de basket. C'est un exemple, parce que tu as une interaction avec les autres, tu as de la prise d'infos et tout. La course à pied, j'exagère, mais c'est bête et méchant. Faut répéter en fait pour que ton corps il s'adapte. Ton économie de course, si tu veux, si tu fais que 3 séances dans la semaine, si tu as une meilleure économie de course, bah, si tu fais une quatrième, elle sera meilleure que si tu fais autre chose. Il y a pas donc en gros, il y a cette notion de transfert, c'est pas prouvé, mais n'empêche que il faut quand même se dire quand tu es coach, tu fais quand même toujours des suppositions et tu as des postulats en disant je vais faire du renfo, je vais faire un sport croisé, ça va quand même m'aider pour aller le faire. Donc ça, c'est ça. Et la notion de compatibilité et d'interférence, en fait, c'est assez rigolo parce que tout le monde connaît le débat AMTK, mTOR, AMPK, pardon, les deux enzymes, les voies de signalisation, etc. C'est peut-être vrai sur le papier, même si de Chartier et Sporer, ils ont quand même dit que il fallait regarder si une planification limitait pas l'effet d'interférence. Tu vois, faut pas prendre tout dans le contexte. Il y a une interférence forcément. Si tu fais que de courir ou si tu fais courir autre chose, ça donnera pas forcément le même résultat. L'interférence, d'ailleurs, elle n'est pas forcément négative. Elle peut être positive. Ça, c'est sûr et certain. Et il faut se poser la question. En fait, cette notion d'interférence, il faut la prendre en disant, si au lieu de courir 6 fois, je cours plus que 5 fois, et je fais du renforcement musculaire à la place, par exemple, je vais obtenir un résultat qui est différent, qui peut être positif comme être négatif. Il ne faut pas le prendre à la séance, mais en fait, il faut le prendre. Elle peut être négative si le sport croisé, comme le renforcement, empiète trop sur la pratique spécifique. Il n'y a quand même pas il n'y a pas de secret. Tout le monde dit, et le record du monde du marathon, il fait 300 bornes 6 grosses semaines. Il fait pas 100 bornes de course à pied, 100 de vélo, et puis que de la muscu. Tu vois, il n'y a pas de secret quand même. Après, on n'est pas tous capables de faire ça. Donc là, les sports croisés, ils viennent aider. Mais en fait, pour en recentrer un peu ce que tu me disais, il y a forcément des interférences avec les autres activités que la pratique spécifique. Et par contre, ces interférences, personne n'a la réponse. Et c'est au cas par cas de se dire, est-ce qu'elles vont être positives ou est-ce qu'elles vont être négatives? Et ça, c'est important pour moi de le prendre en compte. On a un parti pris.
C'est important de le mettre en avant et c'est aussi important de mettre en lumière que même s'il y a des interférences, on peut faire plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas
Ah
parce
oui.
qu'il existe potentiellement des interférences qu'on doit choisir et pour en revenir au débat de tout à l'heure,
Ah
de
oui.
faire soit l'un, soit l'autre. Non, on fait les deux.
Ah.
Si tu perds quelques pourcentages à gauche et à droite, ben, c'est comme ça, mais au moins tu auras fait les deux, ce qui sera toujours mieux que d'avoir fait qu'un seul truc.
Ah bah bien sûr, et sur une optique de sport loisir et de sport santé, de toute façon, la question ne doit pas du tout se poser. Tu vois ce que je veux dire? Sur une optique compétitive, si quelqu'un qui veut faire son marathon le plus vite possible, la question qu'il doit se poser, c'est est-ce que je cours assez pour courir, enfin, est-ce que je vais faire assez de course à pied pour atteindre mon objectif? Oui, non. Et est-ce que je suis capable aussi, tu vois, c'est là que les sports croisés et le renfo sont intéressants, est-ce que je suis capable d'avoir un volume d'entraînement uniquement en course à pied qui me permette de ne pas péter? Peut-être que non. Et peut-être que là, bah, tu vas mettre autre chose à côté. Tu vois, c'est ça qui est intéressant à faire là-dedans. Et on en revient. Je fais la parenthèse, mais j'ai reçu Fred Tranchant dans Endurance 30 qui est numéro 3 mondial en course de montagne. La Sierzina l'a fait deuxième. Il résume la chose en disant, c'est en athlée, ils ont le mot consistance. Et en fait, c'est vrai que c'est la consistance, c'est être régulier dans ce qu'on fait. Ça rejoint en fait tout ça. Et il a dit autre chose, il a dit, pour moi, pour faire des choses extraordinaires, il faut faire des choses ordinaires, mais les répéter tout le temps. Et en fait, enfin, pour moi, il avait tout résumé quand il a dit ça. Et du coup, ben oui, si tu veux courir vite, t'as pas le choix, il faut courir le plus souvent possible. Sauf que peut-être que tu es capable de courir que 4 fois dans la semaine, et si tu y vas 5, au niveau de ta santé, ça va pas te faire du bien. Donc du coup, fais du renfo peut-être au début à la place, après pour te préparer à courir 5 fois, etc. Mais après, la notion d'interférence, je suis d'accord avec toi, on se prend la tête pour pas grand-chose. Quand tu t'entraînes 6 fois par semaine, c'est rien. Enfin, moi, c'est ce que je fais, mais C'est pas 15 fois, c'est pas 3 fois par jour, tu vois. Là, tu peux te poser la question. Avant, je suis pas sûr.
Parlé de ton analogie des bocaux tout à l'heure.
Ouais.
Et c'est une des sections dans ce chapitre 2, organiser l'entraînement, qui s'appelle conserver une marge, les bocaux. Pourquoi conserver une marge?
Il y a plein de trucs en fait, la marge. Il y a ta marge dans ton année, tu vois, enfin dans ta journée par exemple, ou dans ton année, si tu es toujours au taquet, ça en revient au fait de pouvoir tenir toute l'année. Peut-être qu'il vaut mieux faire une séance de moins dans la semaine, mais la faire sur 52 semaines. Tandis que si tu remplis ton bocal en disant plein de bonne volonté, je vais faire 7 jours sur 7, alors oui, si tu cours 20 minutes par jour, 7 jours sur 7, au bout d'un moment, c'est faisable, mais si tu t'entraînes un peu plus fort, ça tiendra peut-être pas. Donc garder cette marge-là. Garder cette marge dans la. Et c'est en lien avec la journée. Tu vois, si ta journée elle est fatigante et que tu retournes tous les soirs te mettre une cartouche, tu n'as plus de marge de manœuvre, en fait. Ça ne va pas durer longtemps. Pour moi, en tout cas. Et garder, c'est pareil, une marge de manœuvre aussi dans ta séance. Si tu as 2 heures d'entraînement devant toi, entre midi et deux, moi j'ai le cas avec certains. Si tu pars dans l'idée de faire 1h55, tu bouffes ton sandwich vite fait, tu te dépêches, machin, généralement ça se finit pas bien. On a eu le cas, j'ai eu le cas avec Seb, s'il m'entend, on s'était mal compris, j'en reparle dans le bouquin sur le temps qu'il avait réellement à disposition. Sur ses intenses, son échauffement était fait à moitié, son temps de récup était raccourci, mais il a fini chez le kiné, quoi. C'est pas grave, après on a corrigé, mais tu vois, toujours garder une petite marge à chaque fois. Et garder une marge dans la progression. Parce que si tu optimises pour moi hein, tout ce que tu fais maintenant. Tu vas progresser super vite, puis après ton plateau, une fois que tu as déjà tout optimisé, mais qu'est-ce qui va te rester comme levier quand tu n'as que 4 séances dans la semaine ou 5 séances pour progresser? Tu n'en as plus beaucoup, tu vois. Et je trouve que, toi, la perf, c'est de la confiance en soi. En vrai, la confiance qu'on a dans ce qu'on est capable de faire, c'est un gros facteur de performance, et quel que soit le niveau. Et à chaque fois que tu progresses, tu augmentes ton niveau de confiance. Je trouve que la plupart des gens, c'est quand même ça. Et tandis que si tu n'as pas de marge de manœuvre dès le début dans ce que tu fais, en disant ouais, bah, j'ai le temps un petit peu d'optimiser, mais en fait, quand tu stagnes, pour continuer à avoir de la confiance, pour moi, c'est compliqué.
Ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec Richard, le père de Sam Laidlaw, triathlète
Ouais,
qui a gagné les
ouais.
championnats du monde, lors du camp d'entraînement en mars, où il disait que ben, l'année d'avant, il s'était entraîné en moyenne entre 20 et 21 heures par semaine, ce qui est assez faible au final pour un triathlète de ce niveau-là. Il commençait à aller vers les 23, 24 heures sur cette saison. Maintenant, il va certainement grappiller un petit peu plus, mais qu'au final, il y avait encore plein de choses qui n'étaient pas complètement développées dans son entraînement, notamment son volume global et d'autres facettes aussi, parce que comme tu l'as dit là, ça laisse une marge de progression. Et si tu optimises tout dès le début, eh ben, une autre citation que j'aime bien, c'est que tu voles l'athlète deux fois. Tu le voles une fois des adaptations basiques qu'il pourrait avoir avec une progression simple et linéaire et patiente, et tu le voles la deuxième fois des adaptations qu'il aurait pu avoir avec ses moyens d'entraînement avancés. Donc c'est ça, c'est voilà, mettre les choses dans le bon ordre, faire les bases d'abord, mais pas nécessairement en faire trop, parce que vaut mieux garder des cartouches pour plus tard.
Ouais, mais tu l'avais déjà sorti, cette phrase, elle est très juste, hein. Je suis vraiment d'accord avec toi sur ça. Et en plus, tu vois, même les meilleurs marathoniens, parce que c'est facile à compter en kilomètres, les marathoniens, ils comptent. Et je crois que j'ai goûté à Hassan Shaidi ou je sais plus lequel, qui court déjà vite. Et il disait, oui, moi, je fais peu de kilomètres pour l'instant. Enfin, peu, je me comprends, hein, par rapport aux meilleurs. Je crois que c'est lui, il m'en voulait. Enfin, je ne sais pas s'il écoutera, mais il m'en voudra pas. Mais il dit, mais moi, je ne suis pas capable d'encaisser autant d'entraînement tout de suite. Donc, en fait, ben, ça me prend du temps pour arriver à le faire. C'est juste ça, parce que n'importe qui peut progresser ou faire progresser quelqu'un rapidement, ça c'est facile. Hein. Franchement, enfin c'est facile, je me comprends, mais oui, tu fais monter la forme, tu lui en enquilles plein, il réussit sa perf, puis après il est pété pour 12 mois, mais tu t'en fous, t'as un bon coach, t'as bien bossé. Mais pour moi, c'est pas ma conception.
Parle de l'importance de cette marge à maintenir sur l'année, sur les entraînements, d'un point de vue psychologique.
Ah, beaucoup. Pour moi, ouais, c'est surtout ça, c'est de se dire, j'ai mon petit chemin d'exploration, bah tiens, il me reste un petit peu de marge, j'y vais, j'ai mon focus du moment, tiens, j'ai fait le tour, je sens que je stagne un peu, bah, qu'est-ce qui me reste encore à aller chercher? Bah, tiens, je peux aller essayer là-dessus. Et si tu veux, en plus, c'est une marge dans les basiques. C'est pas une marge dans, toi, l'optimisation vraiment pointue tout à la fin, peut-être que c'est intéressant par moment, ou peut-être que des fois, des outils de calibrage sont très intéressants au début. Ça, c'est vrai aussi. C'est pas ma manière de faire trop, mais il y en a d'autres qui le font et ça marche très bien. Donc il faut toujours pondérer un petit peu les discours, tu vois. Mais se dire, garder ça, mais alors que si au début, tu as déjà tout fait, finalement, bah, tu es coincé, quoi. Enfin, le jour où tu stagnes, tu es coincé. Et moi, j'ai eu le cas avec des skieurs avec la Fédé. J'essaie de mettre des exemples que j'ai donnés dans le bouquin, comme ça on en parle. Il y en a un depuis ses 16 ans. Il avait un préparateur mental. Il optimisait tout, 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 tout. Il est en équipe de France junior assez tôt. Il y en a un autre qui est arrivé à 18 ans en équipe de France, qui avait à peu près rien optimisé, mais fait toutes les bases, comme l'autre avait aussi fait aussi. Bah, quand celui qui est sorti de nulle part est passé devant l'autre, l'autre, en fait, c'est même pas qu'il a arrêté de progresser, hein, c'est qu'il a fait comme ça. Parce qu'il avait plus de marge, il a vu des gens qui avaient de la fraîcheur et de la marge leur passer devant. Par contre, il n'est jamais trop tôt pour commencer à s'entraîner. Ça, c'est sûr.
C'est une bonne manière de
Ouais.
boucler la boucle. Chapitre 3, la haute intensité.
Ouais.
Comment est-ce que tu définis, à partir d'où commence la haute intensité pour toi?
Alors, la haute intensité, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le livre, du coup, ça le complète bien. Quand tu fais quelque chose d'intensif, pour moi, c'est quelque chose d'inhabituel dans le sens où tu ne pourrais pas refaire la même chose le lendemain, le surlendemain, le surlendemain. Que si tu faisais ça tous les jours, ben, tu ne pourrais pas tenir. Donc, déjà, ça peut être intensif. Et ce qui fait que de la haute intensité, ça peut être, par exemple, une sortie longue. En vrai, en mode trail, tu vas 4 heures. Pour moi, quand je programme, je le considère presque comme une intensité dans ce que je prévois un petit peu avant et ce que je prévois un petit peu après. Donc, en gros, la haute intensité, c'est quelque chose qui sort de ce que tu es capable de faire au quotidien. Donc, déjà, pour commencer, c'est là. Et si on va dans la physiologie, la haute intensité, c'est à partir du moment où tu dépasses le premier seuil, on va dire à peu près à 75% de FC max si on le fait à peu près. Là, tu es déjà dans la haute intensité. Un tempo ou entre les deux seuils, pour moi, c'est déjà de l'entraînement intensif. Donc, tu vois, il y a les deux approches, hein, mais voilà.
Je pense que ça a du sens du fait qu'on sait qu'il y a un changement assez important qui survient au premier seuil, notamment au niveau de la fatigue et de la sollicitation nerveuse de l'organisme. Et donc ça a du sens de catégoriser même quelque chose qui serait du 6 sur 10 comme du tempo, comme étant entre guillemets intensif, parce que bah, ça te permet de ne pas négliger cette charge. Et d'ailleurs, tu en parles hein, dans le chapitre 2, la charge d'entraînement, donc gérer combien tu t'entraînes et de combien de volume tu peux récupérer. C'est une facette importante et cette catégorisation aide avec cette quantification de la charge.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai que l'image des gens qui ont de la haute intensité, c'est forcément c'est RPE 8 ou 9. Et puis, je ne peux pas faire une répétition de plus, sinon je n'ai pas réussi ma séance. Mais je te donne même l'exemple, et surtout chez des amateurs, c'est très rare que la cible de séance soit au-dessus de RPE 7 pour moi. Des fois, il la cote à 8, mais parce que j'utilise beaucoup le tempo, beaucoup de la basse intensité, enfin, la haute intensité qui est basse, tu vois ce que je veux dire? Et même chez des gens qui font, j'en ai un, c'est quoi, 31 minutes ou 10 km sur des choses comme ça, on ne va pas chercher forcément ça. Parce que la très haute intensité est très coûteuse, nerveusement, surtout chez beaucoup de gens. Chez la plupart des gens, le seuil, ou entre les deux seuils en tout cas, nerveusement, il coûte, mais moins que de la très haute intensité. Et chez certains, c'est l'inverse, mais c'est un peu plus rare. Donc ça, il faut connaître les personnes pour le savoir. Mais à partir du moment où c'est un truc que, oui, où tu dépasses ton premier seuil, tu es déjà dans l'intensité. Et il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la haute intensité. C'est oui, c'est comme je leur dis, c'est on vomit pas tripes et boyaux à chaque fois. Tu peux le faire de temps en temps, mais ça suffit à envoyer le message à ton cerveau. Hein. Il va bien se souvenir de ce que c'est que la douleur en général.
C'était Ingrid Bricksen hein, qui a dit quelque chose comme ça récemment, c'est que les gens s'entraînent trop dur à l'entraînement parce que ils ont peur de ne pas être prêts. Alors que le 100%, tu le garderais, alors pas dans tous les cas, mais en grande majorité, ton 100%, tu le gardes pour le jour de la compétition.
Bah ouais, tu vois, par exemple, je donne mon cas perso parce que j'ai fait mon premier marathon cette année. Et parce que je le donne pas pour dire que je suis un génie, mais pour dire que ce que je conseille aux gens, je le fais aussi pour moi. Sinon, je serais. Les conseilleurs, c'est pas toujours les payeurs, mais j'ai fait une séance ultra dure 2 semaines avant où je me suis bien dégommé. Avant mon allure pace et après mon allure pace, parce que je voulais la douleur, j'ai fait un trail qui était dur, Sierre-Zinal, dans l'été pour vraiment tirer dessus. Et c'est les deux seules séances très dures que j'ai fait. Et ça m'a pas. Le reste, j'avais de l'intensité toutes les semaines, mais c'est de l'intensité sous maximale parce que l'enjeu de l'intensité, en fait, pourquoi moi j'aime bien être pas dans la très haute intensité, mais la haute intensité moyenne, c'est que je préfère que les gens fassent de l'intensité le plus souvent possible, donc c'est-à-dire toute l'année. Tu vois, la plupart du temps, même si c'est une fois par semaine, que d'en faire 3 fois à très haute intensité pendant 2 mois et qu'après, ils ne puissent plus en refaire de l'année. Sinon, tu n'as plus d'adaptation.
Exactement. Et il y a aussi le fait, comme tu l'as dit, que la haute intensité, ça coûte beaucoup plus. On sait que le type de fatigue qui va s'accumuler change de manière assez drastique une fois qu'on dépasse ce deuxième seuil, hein, qu'on va au-delà du seuil dans tout ce qui est VO2, VMA, etc. Et que de tête, la fatigue s'accumule 4 à 5 fois plus vite et on a cette composante nerveuse aussi qui devient beaucoup plus importante. D'où ce que tu dis là, où ça vaut la peine de passer du temps à haute intensité, mais entre les deux seuils, parce qu'on peut en accumuler beaucoup, on a des adaptations sympas, en plus le tempo t'adore ça, donc c'est parfait.
Après, je l'adore aussi parce que je trouve que ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire. Il y a d'autres trucs que j'adore et je ne programme pas aux gens, forcément. Mais oui, mais c'est ça. Mais en plus, tu parles du cumul. Mais ton enjeu, quelqu'un qui fait on va dire, mais 99% des gens, quand tu fais ton marathon ou autre chose, ton but du jeu, c'est d'aller une intensité assez rapide, mais pas maximale, le plus longtemps possible. Donc en fait, tes séances entre les deux seuils, tu cumules du temps qui est passé à allure rapide. Je ne dis pas que des 30-30, ce n'est pas intéressant. Mais c'est intéressant, j'exagère, mais pas tant que ça, c'est celui qui veut le gagner. Enfin, c'est un avis, hein, mais c'est intéressant chez celui qui veut le gagner, qui a besoin d'augmenter sa VMA ou d'augmenter sa. Peu importe comment on l'appelle, etc. Mais l'enjeu, il est entre les deux seuils. Pour moi, chez beaucoup de gens sur la haute intensité, en tout cas.
Ouais, bon, on peut s'accorder sur le fait que plus ta discipline va être longue, plus ta course va être longue, plus tu as intérêt de passer du temps entre ces deux seuils. Et je fais le même constat que toi, hein, même si on travaille avec des démographies un petit peu différentes, je travaille pas mal dans le crossfit et d'autres sports à haute intensité, un peu plus éloigné des sports d'endurance. Mais même pour ces gens-là, honnêtement, la zone 2 maintenant, c'est has-been de toute façon. C'était la mode il y a 2 ans. Maintenant, tout le monde s'en fout, tout le monde crache dessus. Ce qui est cool maintenant, c'est la zone 3. Et c'est marrant parce que je rigolais avant quand tu disais que tu adorais le tempo parce que j'adore aussi ces intensités-là. Un, pour le ressenti, parce que plus jeune, étant sportif, j'ai jamais fait ce genre de séance. J'étais tout le temps dans le rouge, tout le temps à bloc. Et donc, c'est des sensations que je connaissais même pas. Donc, de faire un 3x1 sur le vélo, c'était complètement nouveau pour moi. Alors, et on me gardait sous le pied, comme tu l'as dit, hein, toujours garder une marge. Mais ouais, je pense que c'est des intensités qui sont peut-être tombées un petit peu dans les oubliettes pendant un temps, en tout cas pour une partie de la population, parce que bien entendu, si tu cours des marathons, tu fais du trail, c'est des allures qui sont quand même assez centrales à l'entraînement. Mais pour toute autre personne qui ne fait pas de l'endurance, à mon avis, c'est une séance assez incroyable.
Mais en fait, il y a plusieurs raisons à ça et tu résumes bien le truc. Je repensais à toi l'autre fois en courant, en faisant ma zone 2. Je me disais, mais Sean, il a toi. Mais non, mais la zone 2 à la fois est venue à la mode et t'y as beaucoup contribué. Mais finalement, que ce soit un effet de mode, ça a eu comme effet que beaucoup de gens sont mis à en faire et c'est bénéfique. Donc en fait, que ce soit toi ou Pierre ou Paul ou Jacques qui l'aient popularisé, on s'en fout parce que ça, c'est super chouette. Et ce qui se passe, c'est que les gens, ils ne sont pas patients. Hein. Et c'est le problème des réseaux sociaux maintenant. Et en fait, si tu veux, là, je te donne le tempo, là, la zone 3, comme on peut l'appeler, si on est un modèle à 5 zones. Pourquoi c'était passé de mode? Parce qu'on appelle ça la zone grise, entre guillemets, pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est super délétère quand il va trop souvent. C'est-à-dire qu'en fait, la zone 2, c'est la frontière. Et en fait, en gros, c'est les gens qui s'entraînent trop vite à basse intensité. Quand ils sont tout le temps en zone 3, ça fatigue. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bah, faut surtout pas aller là-dedans. Ce qu'ils font, ils appellent ça l'endurance nocive. Mais en fait, c'est faux. Faut juste pas y aller souvent. Et faut juste, enfin, pour moi, faut juste considérer que c'est une intensité. Donc ça veut dire que c'est pas parce que c'est plaisant qu'il faut la faire tous les jours. C'est quasiment tous les gens, et y compris moi, la plupart de leur intensité, ils en ont une par semaine, des fois deux, des fois toutes les 2 semaines, mais peu importe. C'est ces intensités-là et on ne va pas chercher plus haut. De temps en temps, oui, mais tu vois, tu résumes bien les effets de mode. Et puis je te dis que je le dis en rigolant, mais dans pas longtemps, la mode, ça va être les répétitions de sprint. 30 secondes de la route et 4 minutes de récup, tu verras. Ce qui est bien, en fait, tout est bien.
C'est ça.
Mais.
J'aime bien ce que tu as dit là sur la zone 3, le fait que si tu fais beaucoup de zone 3 parce que tu le fais à la place de ta basse intensité, on a certainement quelque chose à optimiser, mais si tu le catégorises et que tu le considères comme une intensité et que tu fais en parallèle la basse intensité, c'est mutuellement bénéfique et tu vas avoir des adaptations super intéressantes. En restant sur la haute intensité, on m'a commenté récemment sur une vidéo et je serais curieux d'avoir ta perspective. On m'a dit, la zone 2, ça sert à rien tant que tu ne fais pas au moins 10 heures d'entraînement par semaine. En gros, si tu es débutant et que tu n'as pas beaucoup d'heures dans ta semaine pour t'entraîner, la basse intensité, c'est une perte de temps et autant faire de la haute intensité.
Alors, 10 heures, ça dépend de quel sport tu parles, parce que 10 heures de course à pied, je peux dire qu'il ne faut pas t'oublier, déjà pour commencer. Donc, il faut remettre les choses en place. Moi, je ne les ai pas, hein, ma moyenne, elle est à 8. Et même pour tu vois, mon marathon, je le visais en 3 heures, j'ai mis 2,52. J'ai 8 heures, ma moyenne, elle est à 8 heures, tu vois, c'est 30 heures par mois, j'ai des mois à 40, des mois un peu moins, mais tu vois ce que je veux dire, déjà 8 heures, si tu fais que de courir ou un peu de renfo, c'est déjà énorme. Et en fait, les gens, ils se trompent en parlant. Autant pour comptabiliser le volume est juste, autant pour la basse et haute intensité, c'est ton nombre. Pour moi, c'est ton nombre de séances. C'est-à-dire que bah, tu fais. Pour moi, le ratio qui est stable, c'est 4 séances basse intensité, une séance haute intensité. Après, la question, il faut avoir le profil de la personne, c'est qu'est-ce qu'il veut. S'il veut progresser, s'il fait que de la haute intensité, ouais, tu vas progresser vite, hein, franchement. N'importe quel blaireau peut mettre quelqu'un en forme en un mois. Enfin, franchement, c'est facile, ça. Après, est-ce que ça va être durable? Je ne sais pas. Après, si c'est juste pour te faire plaisir, peut-être tu peux faire que de la haute intensité, peut-être que ça va passer. J'y crois pas, mais dire il faut faire 10 heures pour avoir le droit de faire de la basse intensité, je pense pas. Moi, je dirais plutôt qu'il faut pouvoir t'entraîner déjà 4 fois dans la semaine, avoir le droit de faire de la haute intensité dans le sport d'endurance. C'est ça. Après, encore une fois, là, c'est le jeu aussi, mais ça reste que mon point de vue à moi. Mais je ne comprends pas en quoi de faire que de la haute intensité. Après, je pense qu'il faut un petit peu les deux. Et ça dépend de la demande du sport. Tu vois, j'avais discuté avec Max Altenhoven, donc à Phoenix, Toulouse, Rouen. Eux, leur ratio il est 70% de haute intensité. Parce que, en fait, le besoin de leur discipline, il est là. Tu vois, c'est ça aussi. Dans l'endurance, moi, j'aimerais bien que tous les gens que j'entraîne, ils puissent entraîner minimum 10 heures par semaine, tu vois, chez les amateurs. Et je peux dire que mais c'est rare, hein, franchement. Même quelqu'un, moi, qui est à. Il a quoi 2,35 au marathon. C'est celui que j'ai qui, en amateur, j'en ai qui vont un peu plus vite, mais j'ai que la prépa, mais que je suis complètement. Ces semaines, elles sont à 8 heures, tu vois. Donc lui, ça veut dire que si j'écoute l'autre argument, ben, je vais lui faire que de la haute intensité, parce qu'il n'a pas le droit de faire de la basse intensité. Son marathon, il ne va pas prendre le départ, hein, je te rassure tout de suite. Hein.
Parle-nous des échauffements pour ces entraînements de haute intensité, que ce soit tempo ou au-delà. Quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent dans les échauffements pour les séances de haute intensité?
On est entre nous. Bon, il y a des gens qui
Il
nous
n'y a que
écoutent.
nous, je partagerai pas.
Si, 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 justement. Mais j'ai dû en mettre dans le bouquin. Mais si je suis très honnête, si tu vas faire du tempo, ce que je fais même pour moi et chez plein de gens, tu vas courir 10 minutes doucement, puis t'attaques. Donc en fait,
Si on parle de séances
l'erreur.
plus intenses après
Ah,
ça,
plus
mais vas-y,
intense.
continue.
Ouais, c'est autre chose. Mais en fait, l'erreur. Enfin, je te dis ça, mais c'est chez les gens qui s'entraînent régulièrement, tu vois ce que je veux dire. L'erreur en fait, c'est de gaspiller toute son énergie à l'échauffement. Et ça, c'est valable en musculation et en course à pied, etc. Et en fait, ça dépend de ta demande. Tu vois, c'est généralement ce qui est le plus classique comme pour moi, par contre, c'est d'attaquer directement par l'intensité. Ça, c'est sûr que c'est non, mais tu fais 10-15 minutes de footing tranquille. Généralement, si tu veux aller faire de la zone 3, sauf si tu as une pathologie, tu vois, que c'est ton kiné qui t'a dit qu'il faut t'échauffer avant d'aller courir, ça évidemment, c'est pas mon domaine de compétence. Mais sinon, ouais, l'erreur, j'en vois pas tant en vrai, à part gaspiller toute son énergie. Et par contre, c'est le moment de la journée. Et toi, je te dis ça, mais moi, je cours pas le matin au réveil. Quelqu'un qui court le matin au réveil, peut-être qu'il a besoin de pousser un peu plus son échauffement. Ça va dépendre de la température aussi. Après, sur de la très haute intensité, c'est pas une erreur d'échauffement. C'est en lien, mais ce n'est pas tant l'erreur d'échauffement, c'est d'aller faire de la très haute intensité sans avoir fait de l'intensité moyenne, type tempo avant, parce que tu ne pourras pas l'encaisser.
Donc c'est
Mais
plus
sur
une...
l'échauffement, ouais, je vois pas. En vrai, je vais pas te dire un truc pour te dire un truc, parce que je n'ai jamais remarqué quelque chose.
T'as bien raison. Et pour les gens qui veulent cette partie-là, eh ben c'est dans le chapitre 3, sous l'échauffement et la récupération. Si on passe sur le chapitre 4, protocole de renforcement, quel était ton objectif global avec l'apport et l'inclusion du renforcement dans ce livre sur la prépa de l'endurance? Ta vue globale, on va dire, de la place du renfo pour la prépa physique en endurance.
Alors ouais, bah pour moi, le principal intérêt du renforcement, c'est que c'est une base santé. Donc c'est d'aider les gens, de compléter ce que la course à pied ne peut pas apporter, comme la zone 2 complétera ceux qui font que de la muscu. Il n'y a pas raison ou tort, je pense que c'est comme ça. Il n'y en a aucun des deux systèmes qui a raison, ça dépend ce qu'on veut. Et du coup, c'est de se dire, moi c'est beaucoup une base de PPG. Donc 80% des protocoles, c'est juste un petit peu orienté. Si tu mets des fentes, c'est sûr que si tu prépares un marathon et que tu fais que des tractions et des pompes, ça serait un peu limité, mais quoique ça peut suffire à équilibrer. Et c'est d'amener ça et en disant aux gens, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez le faire dans 2 mètres carrés dans votre salon avec un kettlebell ou un TRX ou le poids du corps, même ça trouve ses limites. Mais ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances pointues. C'est comme pour aller courir, hein, de toute façon, pour pouvoir le faire. Il faut juste faire des choses simples et les faire régulièrement. Tu vois? Et ce que j'ai voulu amener aux gens, c'est que c'était possible de le faire. Et tous les protocoles, mais ça, ce n'est pas à l'écriture du livre, c'est ma manière de fonctionner, c'est qu'il peut s'être fait justement où tu fais un footing. Et derrière, en fait, quelqu'un qui a qu'une heure devant lui, en fait, quelques 4 séances dans la semaine, si je veux intégrer du renfo, je n'ai pas envie de lui faire la plupart du temps. Sauter totalement toutes ces courses à pied, donc se dire va courir un quart d'heure, 20 minutes, ça t'échauffe. Le circuit est conçu de telle manière que avec tes 15 à un quart d'heure, 20 minutes d'échauffement, ben, c'est peut-être suffisant, enfin de course à pied pour aller le faire. Et comme ça t'intègre, tu as fait ta journée, tu as quand même couru, même si c'est un peu moins, mais tu as maintenu la fréquence qui est la base. Et derrière, tu peux faire ça derrière. Donc vraiment, j'ai essayé de retranscrire ce que je faisais faire aux gens, et c'est cet esprit-là. Donc c'est dire ça peut s'intégrer facilement. Et ton interférence, là, il y en a, t'as pas à te poser la question d'enchaîner course à pied, renfo, ou mieux, si tu as du temps, renfo, course à pied, ça c'est encore mieux, mais peut-être des fois tout le monde n'a pas le temps. Te pose pas la question, fais les deux, ça sera toujours mieux que d'en faire zéro ou d'en faire que d'un dans cette optique-là.
Qu'est-ce qui est le plus important dans le renforcement? Pourquoi le renforcement, il a sa place dans une prépa physique générale, même pour quelqu'un qui fait de l'endurance?
Ben, pour moi, tu vas, et c'est en lien aussi avec la mobilité ou la souplesse ou les étirements ou peu importe toutes ces choses-là, tu vas bouger, tu vas solliciter tes tissus et ton corps différemment. Et ce qui est le plus important pour moi dans une optique de longévité, c'est de donner à ton corps toutes les possibilités en fait de bouger de manière différente. Si tu vois un petit peu l'esprit, si tu fais que de courir, c'est sûr c'est bon pour la santé. Et tu auras toujours des gens qui ont vécu jusqu'à 100 ans en faisant que de la course à pied, en faisant que de la muscu ou en faisant pas de sport. Mais pour la plupart des gens, si tu fais que de courir, il n'y a que tes jambes, un peu le tronc, un peu tes bras qui travaillent, mais tu n'explores pas ça, tu n'explores pas ça, tu n'explores pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, l'idée, c'est de se sentir, d'arriver à faire bouger, voilà, je m'agite en même temps, mais justement le corps de manière différente. Et ça, je pense que c'est important. Et même pour la confiance, on l'a tous vécu, quand tu progresses en renforcement, tu te sens plus fort. Tu te prends presque pour Schwarzenegger, alors je rassure tout le monde, moi aussi, mais en fait, on est vraiment loin du compte. Mais quand même, et quand tu augmentes ton niveau de force, tu augmentes ton niveau de confiance, pardon, tu t'affaisses un petit peu moins sur tes appuis. Il y a plein de petites vertus comme ça, même si ce n'est pas le premier facteur de performance. Et des fois, on veut un peu trop le vendre en disant le renforcement améliore l'économie de course. Alors oui, peut-être, parce qu'on a rajouté du renforcement à l'entraînement habituel, c'est souvent ça. Mais est-ce que si au lieu de rajouter du renforcement, on avait rajouté une séance de course, l'économie de course, elle n'aurait pas augmenté? Peut-être que si quand même, tu vois ce que je veux dire? Donc j'essaye un peu de nuancer ça. Mais en tout cas, c'est déjà un bouger différemment. Et si tu es plus solide, bah, peut-être que ton heure, ta sortie longue d'une heure et demie, au lieu d'avoir mal partout le lendemain, bah, peut-être que ton renfo, il va t'avoir aidé en fait à pas avoir mal partout le lendemain. Tu vois, si je comprends un peu, puis de retourner ça. Parce que j'en reviens à tout début, tu n'as que 4 séances dans la semaine à faire. Et peut-être que, entre guillemets, 4 séances, ce n'est pas assez pour que ta quatrième, qui soit une sortie longue avec de l'allure marathon, je donne l'exemple parce que ça parle aux gens, le marathon, c'est ce qui est le plus pratiqué, on va dire. Bah, pour que tu ne payes pas les pots cassés pendant 5 jours, bah, peut-être que d'avoir fait un peu de renfo, bah, ça te permet, de compenser ça. Tu vois un petit peu l'idée?
Absolument. Chapitre 5, les exercices de renfo. Donc, Nico, tu as donné plein d'exercices dans le livre. Maintenant, si toi, tu devais choisir les exercices préférés de Nico, haut du corps, bas du corps, fais-nous une petite liste. Si tu avais le choix et que tu devais créer ta séance parfaite pour toi, qu'est-ce que tu choisirais comme exercice?
Franchement, je ferais des swings et des relevés turcs. Pour une base PPG, pour être en forme toute l'année, simple et sinistre, ça te souligne, bim. J'ai un peu réadapté d'ailleurs dans le bouquin pour que ça soit accessible, mais en vrai, souvent, ce que je cause, ils sont faits comme ça. J'ai un mouvement de poussée, un mouvement de tirage. Après, ta poussée, elle peut être là ou elle peut être là, si tu fais de la course à pied. Un mouvement autour de la hanche, type le swing, le hip thrust, hip bridge. enfin, soulevé de terre roumain, etc. Un mouvement de flexion de genou, le squat, la fente, tu vois, des choses comme ça. Au moins, encore une fois, dans cette optique de solliciter le corps dans les différents plans et de manière différente. Tu vois ce que je veux dire? Après, clairement, chez un coureur à pied, si tu veux un petit peu devenir plus solide sur les appuis, sûrement que les fentes, c'est quand même un très bon moyen d'y arriver. Tu vois? Encore plus si tu mets du dynamisme dedans, si ta charge, peut-être tu la mets le long du corps pour avoir un peu de déséquilibre. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais c'est secondaire. Et je dis souvent, en fait, que tu fasses une. J'exagère un petit peu, hein, mais que tu fasses une fente avant ou une fente arrière dans de la PPG, ça ne changera pas la face du monde. C'est
Donc, tu
un
l'as dit,
avis, hein.
c'est des outils et ensuite la sélection d'exercices, c'est un petit peu tout en bas de cette chaîne de réflexion. Et comme tu l'as dit, c'est pas l'exercice en lui-même qui fait l'entraînement.
Non, mais par contre, si moi j'ai mon swing est relevé, tu vois ce que je veux dire, mais si je devais faire, je ferais swing, squat gobelet, traction, mais il faut une barre, mais en tout cas traction, et développé militaire à une main. Et je trouve que c'est complet, plus le relevé turc qu'à l'échauffement. Mais moi, c'est mes fétiches à moi, mais il y a des gens pour qui ça ira pas, tu vois, c'est pareil aussi.
Mais j'aime bien la manière dont tu as organisé les choses et je suivrai un axe de réflexion qui est similaire. Un exercice plutôt axé chaîne antérieure, donc les squats, tu les as cités, gobelet, c'est très bien avec la charge devant. Les swings, on a plutôt un focus sur la chaîne poste. En plus, on a l'aspect dynamique, ce qui est toujours intéressant. Et ensuite, on a traction, donc tirage vertical. Et on a presse militaire qui est une presse aussi, mais verticale. Et en gros, tu as rempli ces quatre bocaux et tu as touché tous les patterns généraux que tu peux effectuer en renfo.
Ouais, c'est ça. Et le swing, c'est un excellent apprentissage, je trouve. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, de gestion des temps forts et des temps faibles. Et si tu veux, finalement, quand tu n'importe quel sport que tu fais, tu as un temps fort et un temps faible dedans. À chaque fois, si tu es toujours en tension tout le temps, ça ne marche pas. Et toi, ce swing, jouer sur la dynamique et tout, au-delà des effets ischio, fessiers, tronc, etc. Mais juste sur ça, sur cet apprentissage de gestion de. Je vais dire tempo, mais ça n'a rien à voir avec la séance, mais de gestion de ça, je le trouve super intéressant au niveau proprioceptif, par exemple.
Chapitre 6, les blessures. Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Comment est-ce que tu
Ouais.
abordes ce sujet des blessures dans le livre?
C'est très simple. J'ai demandé à un kiné de l'écrire, comme ça, voilà. Non, j'ai demandé à mon pote et collègue Alexis Grappin, là, qui est kiné avec l'équipe de France de ski et d'aviron. Et il a écrit la première partie, du coup, où justement, c'est ça qui m'intéresse. Il y a des trucs que je ne suis pas trop d'accord avec, même si lui est plus expert de la prévention des blessures que moi. On est bien d'accord. On est d'accord sur le fond. Tu vois ce que je veux dire? C'est la gestion de l'entraînement qui prévient les blessures. Il y a des points où je suis un petit peu moins d'accord, où certains kinés qui le liront ne seront pas d'accord avec lui, comme certains coachs ne sont pas d'accord avec moi. Donc en fait, je lui ai vraiment laissé la parole en me disant, moi, j'ai écrit les quatre premiers chapitres, parce que le cinquième, c'est les exercices, hein, mais. Les quatre premiers chapitres en disant comment organiser son entraînement. Maintenant, comment on peut aller un peu plus loin dans la prévention des blessures. Ça, c'était. J'ai laissé commencer par là. Ensuite, j'ai voulu m'intéresser quand même aux spécificités féminines, s'il y en a. Bon, il y en a forcément. Donc, j'ai commencé à l'écrire une grande partie et je me suis dit, OK, mais je ne suis pas une femme. Donc, à un moment, je coach des femmes, j'ai un peu d'expérience dessus. J'ai coaché des femmes en équipe de France ou amateur. Mais n'empêche que je ne ressens pas les choses comme une femme, donc il me faut une femme pour compléter ce que je dis, parce que je ne dis pas que seule une femme est compétente pour conseiller une femme et un homme pour conseiller un homme, mais sur ce point-là, c'était important. Donc j'ai Manon d'Auvergne qui l'a écrit. Et en fait, si tu veux, je t'explique pourquoi j'ai fait parler deux personnes. C'est pas comme les autres qu'ont juste complété mes propos, j'aurais vraiment donné libre choix pour écrire. C'est que je considère que moi, mon boulot, c'est d'aider les gens à progresser en sécurité. Ça, c'est la première chose. Par contre, mon boulot, c'est pas de soigner des gens. Et en fait, quand on parle de blessures et de prévention, je voulais des professionnels de santé qui expliquaient leur vision à eux et avec leur zone de compétence. Donc, c'est pour ça en fait, que je leur ai demandé de l'écrire. C'est pas par fainéantise, mais j'aurais pas été aussi pertinent qu'eux. Et moi, je voulais un bouquin pertinent. Sur le reste, je ne te dis pas que j'ai raison sur tout, mais j'estime être pertinent dans ce que j'ai écrit. Là, j'estimais que c'est eux qui allaient apporter une plus-value.
Ouais, donc pour résumer ce chapitre 6, tu as l'introduction, ensuite peut-on prévenir les blessures et si on se blesse, on fait quoi? Les femmes plus sujettes aux blessures pour l'interrogation et finalement, comme tu l'as dit, avec la contribution de Manon, influence du cycle menstruel, ça je pense que c'est Un aspect complémentaire très intéressant et très important à mettre en avant, on le dit toujours, hein, mais il faut continuer à le dire, faut jamais s'arrêter. C'est un sujet qui est très très important. Il faut que plus de gens en prennent conscience, autant les femmes pour elles-mêmes, autant les coachs et les personnes qui travaillent avec des femmes au niveau professionnel dans le sport, parce qu'on ne peut pas juste se défaire de ces choses-là et complètement les ignorer. En tout cas, si on le fait, c'est aux dépens de la personne, aux dépens de l'athlète ou la sportive, et ça, c'est pas une solution. Donc, c'est vraiment cool que tu aies mis ça dans le chapitre aussi.
Non, mais c'était super intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse déjà. Il y a des choses où j'étais un peu limité aussi, tu vois, forcément. Donc, ça m'a aussi aidé à apprendre. Et par exemple, typiquement, les règles, et ça, je l'avais observé de manière empirique, mais Manon l'a bien complété. Il y a des femmes chez qui ça n'a aucune incidence, et il y a des femmes chez qui ça a une incidence énorme. Enfin, les cycles, où c'est pas les mêmes cycles pour tout le monde, etc. Et donc, plutôt que de dire, bah ouais, mais de mon expérience, ça change rien, ou de mon expérience, ça change tout, bah, en fait, il faut arriver à nuancer. C'est comme tout dans l'entraînement.
Chapitre 7, la mobilité. Quelle est la place de la mobilité dans l'entraînement, d'après toi?
Dans l'entraînement, sur les sports d'endurance, il y a très peu d'intérêt. Si on parle de performance pure, hein, tu vois ce que je veux dire? Parce que les amplitudes sont très faibles. Après, on peut peut-être, si on va un peu sur le stiffness, enfin, ça peut contribuer, mais il y a quand même très peu d'intérêt direct. Par contre, dans la santé et dans le bien-être, pour moi, la mobilité, ça reste quand même essentiel. Et ça reste essentiel pour deux raisons. Si tu fais du renforcement, ta mobilité peut te permettre d'accéder à des amplitudes de manière sécuritaire, tu vois, qui vont pouvoir te le faire là-dedans. D'ailleurs, le renforcement, quand tu fais des productions de force, type un squat gobelet, un squat profond, des choses comme ça, tu augmentes aussi tes niveaux de mobilité via le contrôle moteur. Ça y contribue aussi. Mais mobilité au sens large, c'est juste se sentir. J'en reviens toujours à bouger les tissus différemment, mais en fait, se sentir capable de faire. Je te parle pas le grand écart, mais de bouger un peu comme tu veux. Ah là, non, parce que j'ai parfait un peu d'automassage, alors que ça me fait du bien sur le dos, je me sens un peu, bah tiens, je vais en faire un peu après. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu au quotidien, se sentir. En fait, c'est notre corps, il nous appartient. Donc, c'est de se sentir libre, de faire à peu près ce qu'on veut avec son corps. Et la mobilité, pour moi, il contribue beaucoup. Après, il y a le faux débat, souplesse, mobilité, etc. Mobilité, je préfère le prendre au sens large. Et comme les étirements, j'en parle et j'en rigole, mais plus on vieillit, si on parle entre vieux, nous, maintenant, plus on sent que si on ne s'étire pas, c'est compliqué pour nous. Parce que les tissus, ils sont plus foutus pareil. Enfin, ça serait, il faut les refaire bouger de manière différente. Donc, toi, il y a un faux débat. Et tu vois, la mobilité, en fait, j'ai envie de te dire, sur un sportif d'endurance, c'est pas du tout un facteur de performance. Par contre, c'est un facteur de bien-être. Et les gars, vous posez pas la, ou les filles, vous ne posez pas la question mobilité versus souplesse ou machin. Faites des trucs qui vous permettent de vous détendre, de bouger différemment, et ça vous fera du bien déjà. Après, effectivement, sur des très hauts niveaux de performance, peut-être que la mobilité de bassin avec le transfert d'appui et tout, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens, tu vois ce que je veux dire. Et pour que ça soit intéressant, il faut faire un vrai boulot. Mais faire un vrai boulot, ça prend du temps, donc quel temps vous avez à consacrer à ça? Mais c'est important, ouais, c'est vraiment du bien-être, tu vois. Et je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là. Et comme, tu vois, je donnais l'exemple des étirements et j'en parle. Les étirements, ça prévient pas les crampes. Et ça fait pas récupérer. Ok, si tu veux. Va, si tu te sens raide de partout, je pense que, et que tu vas faire une course, et en plus de ça, tu es déshydraté, tu as beaucoup plus de chances de choper des crampes, parce que ton état de tension, il est général, il est très élevé, que si en fait, tu es un petit peu détendu. L'étirement, ça fait pas récupérer. Ok, mais chez quelqu'un qui trouve ce moment agréable, il va activer le système nerveux, le parasympathique. Il va se sentir bien, il envoie le signal à son corps, relâche le tonus, t'es en sécu. C'est une manière de récupérer. Il n'y a pas de truc direct, direct, mais en fait, on veut trop prouver que. Mais en fait, c'est comme la cryo. Tu vois, je te donne un exemple de la cryothérapie. Moi, surtout, j'ai bossé pendant les années, il faisait moins 20, donc la cryo, ça, on n'avait pas les foutre dedans. Mais moi, je déteste aller faire un bain froid, donc ça ne va pas du tout me faire récupérer. En plus, ce n'est pas prouvé plus que ça que ça fait récupérer, sauf que. Si toi, Sean, ou n'importe qui aime faire des bains froids et que ça lui permet de se sentir bien, ben ça le fera mieux récupérer que quelque chose qui est meilleur sur le papier. Tu vois? Il faut rester mesuré par rapport à ça.
Non, mais j'aime le fait que tu aies inclus la mobilité. Quelque chose que un collègue, Pat Davidson, avait dit. Alors, il prenait VO2 max comme un indice cardiovasculaire simple, mais en gros, pour lui, l'optimisation de la santé, ça se faisait via trois axes principaux. Un, c'était VO2 max. pour ce que ça représente de manière globale,
Ouais,
pas
bien
pour le
sûr.
chiffre lui-même, la masse musculaire slash force, et troisième,
Ouais.
la mobilité articulaire. Et si tu pouvais travailler sur ces trois axes-là, ben, tu avais rempli 90% du job et que tu allais dans la bonne
Globe,
direction, quoi.
ouais. Bah ouais, puis encore une fois, la mobilité, c'est pas un facteur de perf, mais par contre, si tu prends les trois trucs pour être en bonne santé, ça peut en faire partie. Et plus on vieillit, plus ça en fait partie, je te confirme.
Quel était ton aspect préféré du livre?
Bah franchement, c'est de relire ce que les gens que j'ai fait intervenir ont écrit. Parce que je te jure, j'avais aussi le truc en me disant, eux, en plus, ils ont été géniaux avec moi, ils m'ont pas demandé de le lire avant. J'aurais dit, tu veux écrire sur tel thème, ouais, je t'envoie le truc, et ils n'ont pas lu le bouquin avant qu'il sorte, rien du tout. Et moi, j'attendais, en plus, j'en ai. Coucou, qui c'est Thomas, Laure Blanchet, je sais pas lequel, le dernier jour, hein, j'ai dit, bah ouais, mais je pourrais pas vous mettre, du coup, ils m'ont envoyé au dernier moment. Et moi, j'attendais de savoir déjà, un, parce que ça m'intéresse qu'ils lisaient. Et puis de dire, oh putain, mais ça se trouve, il y en a un, il va m'écrire un truc, c'est tout l'inverse de ce que j'ai écrit dans le chapitre, je vais... mais ça aurait apporté du truc là-dedans. Et ça, j'ai vraiment fait ça. Puis un truc tout con, mais... moi j'ai adoré, alors c'était fastidieux, mais j'ai adoré le travail de d'aller créer, enfin créer, c'est avec l'intelligence artificielle, mais mes illustrations, trouver les noms de protocoles. Il y en a que j'avais déjà avant, mais avant, j'avais pas de nom sur les protocoles. Là, maintenant, j'ai remis des noms. En fait, j'ai adoré l'esprit de me dire. Ouais, bah, je veux que quelqu'un, il ouvre le bouquin et puis il démerde tout seul une fois qu'il l'a terminé. J'exagère, mais c'est vraiment ça. Et c'était de transmettre le truc. Donc, j'ai pas de partie particulière. C'est dur à dire. Franchement, la partie où je me suis moins éclaté, c'est le chapitre 1. Si je suis honnête, la physio, c'est moins mon truc. Donc, j'ai repris les bases. Je vais aller me remettre à jour. Notamment avec le boulot que tu fais, hein, de toute façon, forcément. Parce que toi, c'est très bon pour ça et je le dis souvent. Et je vais aller au moins me remettre à jour ou reformuler différemment des choses. Donc, merci. T'as ta petite contribution quand même à ça.
C'est sympa, c'est sympa. Donc, Nicolas Vandel, la prépa physique de l'endurance, où est-ce que les gens peuvent retrouver ce livre, Nico? Où est-ce qu'ils peuvent le commander aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas bien ce qui va sortir, mais au moment où on enregistre nulle part, parce que je suis en rupture de stock. Donc, les 500 premiers sont partis en 2 mois. Donc, j'en ai relancé, ça va arriver 10 février, donc c'est bientôt. Donc, ils peuvent se rendre sur www.prépa-endurance.com. Et là, il y a le site soit pour commander, en ce moment il s'appelle précommander, mais c'est pareil. Et dès que ça arrive, en fait, moi j'ai mes enveloppes, j'imprime mes petites étiquettes, ça part en Colissimo en 2 jours. Pour nos amis Helvètes, je vais les poster en Suisse, parce que tous ceux que j'ai postés de France, j'avais mis tous les frais de douane, les papiers de douane et tout m'est revenu, donc là, directement. Donc voilà, donc ils peuvent commander là-dessus et j'aurai du stock normalement. Ouais.
Génial. Bah écoute, je mettrai le lien directement dans la description du podcast. Comme ça, les gens peuvent te soutenir directement et en allant commander le bouquin. Nico, un grand bravo encore une fois à toi pour ce superbe ouvrage. Je me réjouis de le lire. Il est vraiment très, très bien illustré. Je vais essayer de trouver une page en exemple pour pouvoir le montrer à l'écran pour les gens qui nous regardent. Ben, par exemple, sur la fiche technique pour un des protocoles d'entraînement. Donc tout est expliqué en détail, tout est très bien illustré avec les formats de séance, les progressions de séance en séance, avec bien entendu tout le contenu théorique entre les deux. Donc toujours très bien illustré, les couleurs sont propres, c'est facile à regarder. Donc voilà, un grand bravo à toi, merci d'être venu sur le podcast pour en parler un petit peu et bah, j'espère qu'on peut te remettre en rupture de stock assez rapidement, Nico.
Là, je demande que ça, mais merci à toi surtout. Franchement, c'est cool, hein, parce que les gens, s'ils savent pas, on discutait de ça. C'est toi qui m'as dit, tu veux pas venir en parler de ton bouquin. Toi, tu m'as, moi, je te l'ai envoyé, mais tu m'as même pas demandé à le recevoir. Toi, enfin, ça s'est fait spontanément. Et je trouve ça plutôt cool. Enfin, je pense que c'est notre manière de bosser à nous aussi, hein, de manière générale. Donc.
Bah d'ailleurs, c'était très apprécié que tu m'envoies l'exemplaire avec ta petite note perso en haut ici. Donc voilà, merci beaucoup à toi, Nico. Encore une fois, lien dans la description. Allez commander le bouquin de Nico. C'est vraiment une super ressource à avoir dans ta librairie et pour compléter tes connaissances. Bah écoute, on se reverra pour le prochain podcast.
Bah ouais, avec plaisir. Et puis, conseil aux gens, faites du tempo.
Tempo, c'est le nouveau zone 2, les gars. La zone 2, c'était il y a
Exactement, ouais.
2 ans. Maintenant, c'est tempo. Allez, tout le
Mais
monde au
tu
tempo.
rigoles, mais tempo, le mot est en train de revenir sur les réseaux. Tout le monde parle de tempo maintenant.
Ah,
C'est
t'en fais
rigolo.
pas. Dans 2 semaines, je sors une vidéo sur le tempo. Tu vas
Ouais, parfait.
voir.
Ok,
Merci,
ok.
Nico.
De rien. Allez, à
Allez, ciao.
plus.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.